Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité dramatique et néanmoins théâtrale avec les malades imaginaires de la critique. J'ai nommé Armel Hélio du Figaro, Fabienne Pascaud de Télérama, Jacques Nerson de l'Obs et Gilles Costaz de Politis. On parle ce soir de deux Molières, le malade imaginaire donc et le misanthrope, mais également de deux films adaptés à la scène, Fanny et Alexandre et Opening Night. On parle de Encore un instant au théâtre Édouard VII, du cas Édouard Einstein, et on ne parlera pas, puisqu'ils ont cessé faute de combattants, on ne parlera pas du lien de François Bégaudeau, dommage. On ne parlera pas non plus de Rabbit Hole de David Lindsay Haber. Dans le courrier de la semaine, Madeleine Bruchet a adoré la dégustation au théâtre de la Renaissance. La pièce est une succession de dialogues drôles et brillants servis par un trio d'acteurs irrésistibles dont Isabelle Carré, éblouissante, Courrézy. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais on en parlera au prochain Masque Théâtre. Laurent Bertrand a vu Les Idoles de Christophe Honoré à Belfort. J'ai beaucoup aimé, mention spéciale aux deux dames de la soirée époustouflante. C'était Marina Foïs et Marlène Saldana. J'ai l'âge, nous disent cet auditeur, de Jean-Luc Lagarce et de Cyril Collard. Et il faut quand même un peu de bagage pour bien tout apprécier. Jean-Luc Clairet tient pour sa part que Retour à Reims de Didier Ribon monté par Thomas Ostermeyer. Et Les Idoles de Christophe Honoré sont deux spectacles mémorables où des metteurs en scène et des comédiens brillantissimes parlent de notre actualité avec une intelligence qui fait défaut à bon nombre de spectacles passe-partout. Au contraire, Jérémy Ruiz Jiménez, qui a 32 ans, veut partager une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que je sors de Retour à Reims et que ce spectacle a écorné mon amour pour Thomas Ostermeyer, que j'adore, tant le spectacle était mauvais, d'un niveau CM2. La bonne nouvelle, c'est que quand Fabienne Pascaud conseille un spectacle, je dois l'éviter absolument. Après avoir vu Compromis de Philippe Claudel aux nouveautés, Martine nous écrit « Je ne comprends pas vos critiques du masque, unanimement négatives, en totale contradiction avec les réactions du public ce soir-là, très favorables. Pourriez-vous, SVP, conseiller à celui ou celle d'entre vous qui, avec beaucoup de condescendance, conseillait à Philippe Claudel de ne plus écrire de pièces de théâtre, de ne plus sévir comme critique de théâtre ?» Je ne sais pas qui l'a dit. À propos de Kanata de Robert Lepage dans le théâtre d'Ariane Mnouchkine, Jean-François Bacot de Paris veut souligner qu'il s'agit d'un acte de résistance à une nouvelle forme d'inquisition venue des campus nord-américains, dénonçant une hypothétique appropriation culturelle. Paradoxalement, ce sont les représentants de ces communautés amérindiennes, dont Lepage et Mnouchkine cherchaient à prendre la défense, qui se sont retournés contre ses créateurs. Et il salue Ariane Mnouchkine, qui avec courage et ténacité a maintenu le cap de la liberté de création. Serge Lévy, tiens, n'a pas aimé entendre Fabienne prétendre que Molière était misogyne encore, citant les précieuses et les femmes savantes. Trouve-t-elle que les hommes sont mieux traités, Harpagon, Argan, Géron, Trissotin, Orgon, etc. Au contraire, ce sont souvent les servantes qui sont les plus sensées.
Oui, mais les hommes ont les rôles principaux.
Continuez donc de plumer le masque par vos numéros de mauvaise foi. Nathan Aznar, Fabienne. Nathan Aznar, il a 15 ans. Et il t'écrit, il est bien connu que les hommes chez Molière sont tous des intellectuels charismatiques et jamais des hommes grotesques, vils, bêtes et tournés en ridicule. Et Nathan termine en disant « Repentez-vous, madame ».
Je verrai, Nathan. Hein.
Voilà, sinon Geneviève Bigand nous signale le départ en tournée du Faiseur de théâtre de Thomas Bernhard, que l'on donne au Déjazer, on en a parlé la fois dernière, avec le magistral André Marcon, Orbis Semifred dans Premier Amour. Je n'ai rien vu de mieux ces derniers temps. La pièce part en tournée. J'espère qu'elle rencontrera un public moins snob et plus averti qu'à Paris et qui ne boudera pas cet immense plaisir. Enfin, Gilles Halimi vient de voir Fanny Alexandre au Français, dont on parle ce soir, et il n'a pas aimé. Il parle même de cuisine au beurre franchouillarde. Et il ajoute, je veux bien que cela soit une auto-analyse de la troupe de la Comédie Française, comme l'indique Julie Deliquet, mais ce n'est donc pas Fanny et Alexandre. On va en reparler dans quelques instants. Et on commence avec, évidemment, le retour sur la scène d'Isabelle Adjani. C'est dans l'adaptation au théâtre par Cyril Test de Opening Night, le film, le chef-d'œuvre, selon moi, mais je sais que Jacques n'est pas de mon avis, de John Cassavetes, qui était sorti en 1977, dont il avait d'ailleurs pensé faire une pièce avec Gina Rowlands, la femme de Cassavetes, qui incarnait une célèbre actrice de théâtre qui assiste à la mort accidentelle sous ses yeux d'une jeune admiratrice hystérique. Elle est d'autant plus bouleversée qu'elle s'apprête à jouer une pièce où elle incarne une femme qui a perdu sa jeunesse. C'est le portrait, donc, je parlais du film, hein, d'une femme vieillissante qui ne supporte plus son image dans le miroir, qui se saoule au whisky pour oublier son âge et noyer son angoisse. Isabelle Adjani, qu'on n'avait pas revue dans une pièce depuis le très, très oubliable Kinship de Carré Perloff, c'était au Théâtre de Paris, est ici entourée de Morgan Lloyd Sicard et de Frédéric Pierrot. Alors vous avez vu, les critiques du masque, le spectacle à Namur en Belgique, où il a été créé le 22 février, et sachez qu'il vient de se jouer à Angers, qu'il sera à Lyon au Célestin du 26 au 30 mars, à Annecy du 6 au 12 avril, à Nice du 24 au 27 avril, au Bouffe du Nord du 3 au 26 mai et au Gymnase de Marseille du 3 au 6 juin. Une tournée vraiment assez impressionnante. Alors, Jacques Adjani, nouvelle Gina Rowlands?
Écoutez, moi je suis très gêné par rapport à ce spectacle, car j'ai l'impression que nous avons été invités trop tôt. Le public est invité trop tôt. Ce spectacle n'est, à mon avis, pas terminé.
Juste précision, on avait demandé à le voir tôt aussi. Hein.
Oui, absolument. De toute façon, à partir du moment où le public est convié, ça me paraît normal qu'un spectacle soit estimé terminé. Mais là, en l'occurrence, il ne l'est pas. On assiste à une sorte de répétition. D'ailleurs, on nous dit que la durée du spectacle peut varier. Nous, quand on l'a vu, il durait 1h05, tout juste, ou
à
même
peine,
pas 1h10.
Oui, à peine.
Donc, voilà, c'est très difficile dans ces conditions de porter un jugement. C'est vrai que vous l'avez dit, je n'ai pas une absolue passion pour Opening Night. Je ne trouve pas que ce soit le plus grand film de Cassavetes, mais je ne suis pas cinéphile.
Mais votre avis sur le film, on s'en fout.
Mais absolument. J'ai aucune autorité en la matière. Mais théâtralement, je ne sais pas quoi dire, parce que voilà, je sais que j'y retournerai. Je suis content qu'Adjani fasse preuve de courage à y voir un metteur en scène comme Cyril Test, qui est certainement plus intéressant que bien des gens avec qui elle a travaillé au théâtre jusqu'ici, qui est quelqu'un de très novateur, qui cherche à démolir un peu la frontière entre le cinéma et le théâtre, qui utilise intelligemment la vidéo, ce qui est rare. Donc, j'admire qu'elle ait fait ça. Maintenant, j'ai du mal à juger le spectacle, bien que Adjani soit pas du tout en cause, d'ailleurs.
Isabelle Adjani, qui faisait, Fabienne, la semaine dernière, la une de votre journal.
Oui, parce que c'est vrai qu'on avait parié sur ce spectacle, parce qu'on aime beaucoup Cyril Test, qui a une manière de travailler les problèmes d'aujourd'hui, toujours très intéressante, en utilisant, comme l'a dit Jacques, la vidéo de manière plutôt singulière et passionnante. Donc c'est vrai, on était curieux, Emmanuel Boucher a eu la chance de pouvoir assister à des répétitions. Mais entre ce qu'elle racontait et ce qu'on a vu, il y a eu beaucoup de changements. Et je pense qu'il y en aura encore, parce que d'après ce que nous a dit Cyril Test, et il a eu l'honnêteté de dire qu'il s'était fait ramasser par la critique belge le soir de la première, nous on est arrivés à la 5e représentation et il avait déjà radicalement changé la pièce. Donc c'est vrai que c'est difficile d'en parler, Je pense que c'est nettement moins riche que le film. D'abord, Cyril Test lui-même, non sans ambition, ne veut pas qu'on parle de représentation théâtrale. Il parle de laboratoire public. Et, il tient...
Ce
il
soir,
tient...
je vais aller au laboratoire public.
Tu viens, tient... on va faire un laboratoire public. Et oui, mais finalement, c'est un geste artistique intéressant. Il tient compte des réactions du public pour moduler son spectacle. C'est pas facile pour les critiques parce que la présentation doit pouvoir changer énormément d'un soir à l'autre.
Comment est Isabelle ?
Isabelle, elle est bien.
Mais vous n'en parlez pas ni l'un ni l'autre.
C'est pas Gina Rolandes entre nous parce qu'elle doit. Encore une fois, j'admire. On peut admirer sa démarche humble, modeste. Elle a dû changer 20 fois de réplique. Cyril Test lui redonne des répliques le soir qu'elle doit apprendre pour le lendemain. Elle a l'habitude au cinéma, mais enfin, c'est pas facile. On y va pour voir la démesure d'une actrice qui souffre, comme souffrait Gina Rolandes, qui est torturée par la quête de vérité de son métier, qui veut faire tomber le masque, qui veut aller au plus profond d'elle-même. Je l'ai trouvée personnellement un peu sage. Je pensais qu'elle s'arracherait, qu'elle nous ferait rentrer dans toutes les arcanes et la violence et les labyrinthes d'une comédienne en proie à la difficulté d'un rôle et qui s'accroche et qui est prête à tout sacrifier. Bon, ça, c'était la version un peu romantique que j'ai d'Isabelle Adjani. Elle va peut-être la trouver. Une fois, tout est possible.
Est-ce que vous avez remarqué une chose, c'est qu'il y a
ça vous embête pas que je continue le tour de table, non ?
Pardon, non, mais c'était juste pour faire remarquer qu'il y avait dans le générique quelqu'un qui s'occupe de l'illustration olfactive.
De l'illustration olfactive. Oui.
C'était déjà
olfactive.
Ça dans Festel.
Je devais faire le nez bouché, j'ai rien senti.
Ouais.
Et Fabienne n'a rien senti non plus ?
J'ai rien senti non plus.
Et Armel, vous avez senti quelque chose ?
Non, j'ai cherché parce que c'est un très grand parfumeur à la mode.
Illustration olfactive. Ouais.
Mais alors, il y a bien un petit bouquet de fleurs, mais bon,
ah oui, mais ça, c'est
rien. Non, mais ça, c'est sympathique d'essayer des choses.
C'est oui, plutôt enfin, de c'est ça quelqu'un qui est payé pour faire des odeurs et qu'il n'y a pas d'odeur, c'est bizarre quand même.
On était un peu loin, peut-être.
Bon,
je ne
alors,
sais pas.
Armel,
non, on était très
j'arrive
bien
toujours
passé.
Pas vraiment à savoir, parce que je ne l'ai pas encore vu, ce que ça vaut. Ce
c'est très en retrait de ce que... C'est très en retrait du film. Parce que le film, il a une force immédiate extraordinaire. Il est long, hein, il fait presque 4 heures le film.
Et là, la pièce fait combien ?
Et ben là, la version qu'on a vue, on nous a annoncé 1h05 et on a eu 1h05 applaudissements compris.
Ah oui, c'est compact.
Bon, mais c'est alors effectivement, c'est un
travail compact.
C'est un travail en cours. Je pense que pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'argument du film, je pense qu'il y a une petite difficulté à comprendre. Bon, la mort de la jeune femme, on la comprend très bien.
L'accident.
Elle est d'ailleurs incarnée par la nièce d'Adjani, qui lui ressemble, mais elle est présente en vidéo seulement, donc on peut pas juger de son talent, mais elle a une jolie présence, cette jeune femme. Il y a 3 personnages en scène, et ce qui est frappant, c'est que les deux, donc celui qui joue le metteur en scène, Morgan Lloyd Sicard, c'est Ben Gazzara dans le film. Et celui qui joue l'acteur,
Frédéric Pierrot,
Cassavetes lui-même dans le film, ils ont une présence, et Frédéric Pierrot en particulier, une présence extraordinaire, une présence beaucoup plus forte pour le moment que la comédienne Isabelle Adjani et la comédienne du film Myrtle. Parce que Adjani, elle est quand même souvent soit très au fond du plateau, soit à contre-jour.
Ah bah vous donnez très envie de le voir, ce spectacle.
Elle porte une voilette, comme le personnage dans le film, d'ailleurs, elle porte une voilette. Mais si
j'ai
vous
pas
voulez,
compris pourquoi elle la gardait, cette voilette, pour les applaudissements.
Oui, c'est ce que je
dis. C'est pour les saluts, c'est bizarre.
Oui, il y a beaucoup de coquetterie encore dans ce projet. Je pense que tout ça va tomber, parce qu'elle a quand même la passion du jeu, qu'elle est juste, mais moi j'ai regretté une chose, par exemple, les micros sont tellement mal réglés que ce qui fait une des beautés, faut quand même dire la vérité, une des beautés d'Adjani, c'est son timbre de voix extraordinaire, et que là, il est un petit peu écrasé par le dispositif sonore.
Bon,
mais comme on ne peut pas juger...
Là, on ne juge pas, on accumule... Pour l'instant,
mais c'est pour eux.
L'épreuve. C'est
pour
tout.
Eux.
Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr.
Ça va se bonifier.
En tout cas, il faut saluer une tournée qui passe quasiment par toutes les villes.
Oui, c'est courageux, c'est intéressant.
Alors, Gilles.
Oui, Cyril Tesse, c'est vraiment un metteur en scène formidable. Mais là, c'est peut-être sa première très grande difficulté, parce que il a mis les pieds dans quelque chose qui, dont il a multiplié la complexité. C'est-à-dire que il a décidé qu'il allait monter ça comme Cassavetes, qui montait ça de façon très improvisée en faisant les plans au dernier moment, en accumulant les plans sans savoir ce qu'il allait faire, en prenant ce qu'il y avait chez General Lance. Et puis il a décidé aussi de se mettre au service d'Adjani. Et ce spectacle qui est réussi, c'est pas Adjani elle-même, c'est le poème autour d'Adjani, c'est-à-dire qu'elle est adorée par le metteur en scène et par la caméra. C'est vraiment un bouquet, un poème, une ode à Adjani, et le public le prend comme ça, il se lève en admiration, et ça fonctionne. En revanche, l'adaptation d'Opening Night, elle est encore beaucoup à travailler.
Bon, eh ben, on va voir comment ça va se roder en tournée. Je vous ai donné avant toutes les villes, vous le trouverez sur le site évidemment de l'émission. C'est donc Opening Night avec Isabelle Adjani, et c'est une mise en scène signée Cyril Teste. L'autre film porté cette saison à la scène, il y en a beaucoup, hein. Ça n'arrête pas même, on peut dire. C'est une vogue, une mode, une tendance. Autre film porté donc cette saison à la scène, où il est encore question de théâtre, dans une mise en abîme perpétuelle, c'est Fanny et Alexandre, le dernier long-métrage de Bergman, sorti en 1982, et dont la version scénique est co-signée Florence Sévoz, Julie Deliquet, Julie André, et la mise en scène, donc Julie Deliquet. L'histoire dans la Suède du début du XXe siècle d'un jeune garçon Alexandre et de sa sœur Fanny dont les parents travaillent dans le monde du théâtre et sont très heureux ensemble jusqu'à la mort subite du père, Oscar. Après quoi, c'est la seconde partie du spectacle. La mère, Émilie, c'est Elsa Le Poivre, se marie avec un évêque luthérien, très luthérien même, chez qui il emménage avec ses enfants, désormais soumis à une autorité aussi stricte qu'impitoyable, avec tout ce qu'aime Jacques, usage du fouet, privation de nourriture. Et l'évêque, c'est Thierry Ancis. À la Comédie Française, donc, où Bergman fait son entrée au répertoire, Julie Deliquet a mélangé les versions, qui existent d'ailleurs, romancées, télévisées et cinématographiques, de Fanny et Alexandre, qui sont jouées par Rebecca Marder et Jean Chevalier, autrement dit, des grands, des très grands enfants. Et pour ajouter à la mise en scène et à la mise en abîme, Denis Podalydès, qui est Oscar, se présente à nous dès le début en directeur du théâtre, où il va créer Hamlet de Shakespeare. Il faut encore compter avec Laurence Tocquer, Hervé Pierre, Dominique Blanc et Florence Viala, avec, je le disais, ces grands enfants du film, d'autant plus grand quand tout d'un coup, et je pense que vous y avez été sensible, Armel, on assiste à la, quand même à Jean Chevalier tout nu, quoi. Tout nu de chez tout nu.
Oui.
Ah oui.
Pauvre enfant, pauvre enfant.
Mais là, on voit que c'est plus vraiment un enfant.
Voilà, et c'est le grand manque.
Ça dure 2h45,
c'est le grand manque de cette production.
Et ça se joue jusqu'au 16 juin. Oui, pardon.
C'est-à-dire.
Qu'est-ce qu'il manque
Que nous n'ayons pas, nous soyons privés du regard de l'enfant. Parce que,
des enfants même.
Oui, des enfants. Le vieux Bergman, qui, comme l'a dit Jérôme, a fait de ce film son testament, avait dit qu'il ne tournerait plus après, et qui se remémore sa propre enfance, il a ce génie, dans le film, de nous faire voir tous ses souvenirs à travers le regard de Fanny et d'Alexandre, à travers le regard d'enfant. Les sensations que l'on a, l'émotion que l'on a, elle passe par le truchement du regard de ses enfants et de la présence de ses enfants. Or là, évidemment, il n'y a pas d'enfants aux Français, il y a deux jeunes gens très doués, très beaux, très sympathiques.
En plus, lui est quand même très, très... Alexandre, il est très baraqué, hein.
Ouais.
Il est plutôt...
Rebecca Marder...
Plus rugbyman que...
Ouais, Rebecca, on pourrait lui donner 13-14 ans. Lui, pas du tout. Mais ça n'est pas gênant.
13-14 ans ?
13-14 ans,
je pense. Rebecca, pas. Oui, quand on la voit avec sa petite chemise de nuit, là, oui.
Oh, bah, oh,
mais c'est pas
non,
si important.
Non,
mais bon, si, moi,
si,
je
c'est
trouve
très
que ça manque.
Quand une histoire est une histoire d'enfant
c'est un
et qu'on n'a pas d'acteur-enfant...
Voilà.
Le garçon était très mauvais dans le film de Bergman.
C'est un évitement du projet, c'est un évitement de la difficulté première de cette transposition. Reste que c'est une transposition aussi un petit peu déséquilibrée. Je pense que Julie Deliquet et ses camarades scénaristes, dont celle qui travaille avec Desplechin, Florence
Sévoz,
voilà,
qui est romancière en plus, très bonne romancière.
Voilà, elles se sont laissées emportées par la matière et qu'ensuite elles ont coupé par la fin. Et donc la première partie, la soirée de Noël, fait 1h15.
Ça fait deux parties très très différentes.
Voilà, on a l'entracte ensuite. Alors c'est vrai que le temps, le temps a passé, elle a épousé le méchant évêque.
Moi, je m'en tirais,
j'ai passé une bonne soirée parce que on nous raconte une belle histoire, que les acteurs sont heureux et que nous, du coup, par ricochet, si j'ose dire, on est contents.
Fabienne,
on est content. Moi, j'ai passé plus qu'une bonne soirée, j'ai passé une soirée jubilatoire parce que dans Fanny et Alexandre, ce qui a le personnage principal, c'est peut-être le théâtre. Et là, on est dans le temple du théâtre français, la Comédie française. Donc déjà, la métaphore fonctionne à merveille. Et pour une fois, bien mieux que dans Opening Night, puisque ça parle de théâtre, on est aussi aux prises avec les comédiens. On voit Podalydès, par exemple, qui incarne le directeur du théâtre et un très, très mauvais acteur. Donc il faut être assez génial pour jouer un mauvais acteur. Sa femme, qui va se marier avec cet odieux Thierry Ancis, qui est époustouflant quand il sera mort. Pourquoi elle fait ça? Eh bien, parce que c'est une comédienne qui en a marre d'avoir des masques, qui rêve d'une quête un peu mystique, comme peuvent le faire les... comme peuvent, ça peut être aussi la tentation du théâtre et la tentation des comédiennes. Donc, c'est pour ça qu'elle va épouser ce puritain.
Vous nous racontez la pièce.
Non, mais je raconte que c'est un hommage au théâtre. Et donc, c'est joué par une troupe qui est absolument exceptionnelle dans tout, chez tous les comédiens. Parce que, par exemple, vous êtes choqué que ça ne soit pas des enfants, mais ça vous choque pas que ça soit Dominique Blanc qui joue la grand-mère. Alors, Dominique Blanc,
elle n'a pas l'âge d'être grand-mère.
Elle n'a pas l'âge d'être la mère de Podalydès. Elle n'a pas l'âge d'être la mère de Podalydès et d'Hervé Pierre.
Le théâtre, on s'en fout qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient vieux. Je ne demande pas leur papier d'identité. Mais il faut quand même, vous n'allez pas faire jouer le rôle du chaperon rouge si vous montez le chaperon rouge, vous ne le faites pas jouer par la grand-mère.
Peu importe si l'adaptation tient.
Il faut quand même que les enfants soient joués par des enfants. D'autant qu'il y a des acteurs en France, ça existe.
Il y a des acteurs
qui ont 15 ans, qui en font un peu moins.
Mais pas la Comédie
française. Alors à ce moment-là, on les fait entrer à la Comédie française pour jouer. Non, on s'en moque pas. On peut pas raconter une histoire d'enfant quand on n'a pas d'enfant. C'est tout, c'est simple.
Jacques, vous pensez que c'est...
Première partie, d'abord, ce qu'il faut dire, cette fête des comédiens sur plateau, ils fêtent Noël, c'est très long.
Et
il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'ils se congratulent, ils bavardent, etc. Et ça n'est qu'à la toute fin de cette première partie qu'il se passe enfin quelque chose, c'est-à-dire la crise cardiaque et Podalydès qui meurt. Mais on a attendu très longtemps.
Enfin, il meurt.
Et j'ai vu des gens partir après à l'entracte, ce qui se produit à ce moment-là. J'ai trouvé ça très dommage par la suite, parce que la deuxième partie est beaucoup plus intéressante, et notamment... La deuxième partie est emportée,
elle
à mon avis,
par
Thierry Dans.
Elle est terrible en même temps, parce que c'est vraiment cette...
Mais Thierry Ancis, je crois qu'il
est fabuleux.
Il est magnifique. Je l'ai souvent vu très bien.
Mais
c'est
ça
ne plaît
pas pour le protestantisme.
Oui, mais enfin, bon, des puritains, il y en a dans toutes les religions. Et je l'ai trouvé absolument admirable. Il fait peur, vraiment. Il est terrifiant. C'est un engagement d'acteur extraordinaire. Il réussit à rester humain, d'une certaine manière, dans la monstruosité, c'est vrai. Il y a des scènes magnifiques. Il n'empêche que le spectacle, moi, je ne le recommanderais pas. C'est pas un bon spectacle, à part quelques scènes merveilleuses, mais ce sont des pépites, malheureusement, et le reste n'est pas passionnant, vraiment pas.
Gilles, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Nerson ?
Eh bien, je ne suis pas d'accord avec Nerson.
Merci.
Ça m'étonne.
Et je suis d'accord avec Fabienne et Armel, parce que c'est un très, très beau spectacle. Et je ne sais pas ce qu'il vous faut, Jacques, parce que cette première partie, elle n'est pas nouée comme un roman policier, mais elle est tellement belle avec l'humanité de tous ces personnages. Ça grouille de personnages merveilleux, de personnages qu'on aime. Dès le début, on ne les quitte pas. Dès cette première heure et demie, elle est formidable. Et tout est formidable avec, effectivement, ce climax avec Thierry Ancis qu'on redécouvre. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu aussi extraordinaire.
Enfin, c'est en
les
deuxième
comédiens
partie.
Sont éblouissants, absolument. Donc c'est vrai que c'est un peu comme au cinéma, c'est un feuilleton quand on le regarde, ça dure 3 heures et puis on est content.
Fanny et Alexandre, c'était la Comédie française. Et maintenant, deux comédies de Molière qui ne sont pas montées donc dans sa maison, Place Colette, mais dans le théâtre privé. Moi j'y perds mon latin, mais c'est pas grave. Il s'agit donc du Misanthrope et du Malade imaginaire. Le Malade imaginaire, c'est donc l'ultime pièce de Molière, vous le savez. Celle qui l'a tué, pourrait-on dire, écrit mise en scène au Théâtre de Paris par Daniel Auteuil, qui joue lui-même Argan, Il se fait faire des saignées et des purges, avale tous les remèdes que lui prescrivent les médecins charlatans. Il rêve de marier sa fille Angélique, vous le savez, au docteur Diafoirus. Et il va devoir faire le mort pour découvrir la vérité sur ceux qui l'entourent, à commencer par sa femme Béline. Auteuil, donc, est un malade que j'ai trouvé plutôt en bonne santé, je parle physiquement. Sa fille Aurore joue donc, Aurore Auteuil, joue donc la servante Toinette. Il faut citer encore dans la distribution Alain Doutet, Cédric Zimmerlin, Laurent Bozzi, Victoire Bellesi, Pierre-Yves Bon, Gaël Cotta, Jean-Marie Gallet, Loïc Legendre et Natalia Doncheva. Le très beau décor signé Jean-Paul Chambaz, il faut le dire, dont les couleurs vont très bien avec la robe de chambre orangée et moirée d'argan. Je rappelle quand même aux oublieux qu'Auteuil, il a quand même servi fort bien Molière. C'était d'abord dans la cour d'honneur du Palais des Papes en 90. Il était un bon scapin sous la direction de Jean-Pierre Vincent, et puis aussi en 2008, Arnolphe dans l'école des femmes. Gilles, ce malade imaginaire.
Ben, ça, c'est un spectacle qui est bon et franc comme le pain, c'est-à-dire c'est tout simple.
Bon enfant.
Oui, et ça cherche pas à être plus malin que le texte, ça cherche à jouer le texte. Et Daniel Auteuil, peut-être qu'il est assez tranquille, comme vous dites, Jérôme, mais ça fait du bien aussi un argan qui est assez placide, parce qu'on a vu des malades imaginaires qui étaient terrifiants, comme Michel Bouquet, qui vous donnait la peur au ventre tellement ils étaient angoissés et faisaient régner la terreur. Celui-là est plus tranquille. Et donc ça se déroule avec une très grande justesse. Alors, il y a un événement qu'apporte Auteuil à la fin. Il a changé un peu le texte, puisqu'à la fin, il y a la ronde des médecins. Et il l'a remplacé par une ronde des personnages de théâtre. Ça se discute, parce que ça boucle pas la pièce de la même façon. Mais là aussi, c'est une jolie idée, parce que c'est encore là aussi un hommage au théâtre.
Enfin, on peut dire qu'on peut emmener sa famille sans aucun danger.
Et j'ai l'impression que c'est déjà le cas. Hein, les familles viennent.
C'est une très bonne production, très soignée. Vous avez parlé du décor, les costumes aussi sont très jolis, les maquillages, tout est beau et il y a un très bon rythme sur tout ça.
Il n'y a pas de conseiller olfactif en revanche.
Non. Ça se joue en moins de deux heures.
À part un de mes voisins qui devait avoir un conseiller, je pense, ce soir-là. Mais sinon, je n'ai pas remarqué de...
En moins de deux heures, il y a un très très bon rythme. Donc ça veut dire que les enfants peuvent suivre sans être fatigués, sans perdre leur attention. Et c'est très important parce que cette pièce, dès qu'on a 8-9 ans, on peut voir ce grand Molière tellement bien écrit, tellement drôle. Et quand même voir un très grand acteur, parce que Auteuil est un très très grand comédien. Un garçon qui, là, ne cherche pas à faire des grimaces, ne cherche pas à faire le malade plus qu'il n'est, qui montre plutôt quelqu'un qui a envie d'être malade pour qu'on s'occupe de lui, il cherche la cajolerie plus qu'il n'est angoissé. Et puis il faut citer aussi Aurore Auteuil, qu'on avait vu très bien dans un texte qu'elle avait écrit elle-même et qu'elle avait mis en scène et joué, et qui là trouve un rôle à sa mesure. Elle a beaucoup de caractère. Le reste de la distribution est très bien. J'ai trouvé que peut-être les scènes des Diafoirus sont moins bien creusées, moins bien affirmées que le reste du spectacle. Mais ça reste une des meilleures soirées qu'on puisse passer aujourd'hui à Paris avec Molière.
Oui, encore une fois, qui est un Molière qu'on ne cesse de voir dans le privé, c'est un peu et qu'on voit de moins en moins Place Colette, hein. C'est quand même
Il y a eu le Molière de Claude Strauss, la mise en scène de Claude Strauss.
Non, mais voyez,
je crois qu'elle est restée,
il y a
25 ans à l'affiche, après la mort de Claude Strauss.
Oui, ça change pas grand chose à ce que je viens de dire. On n'a plus beaucoup Molière dans sa maison. Alors,
il y a eu Scapin quand même cette année.
J'ai un peu honte. Pour moi, c'est rien, ce spectacle. Franchement, j'y suis allée. Je trouve que Daniel Auteuil...
Tu étais fatiguée, Fabienne, j'entends. Parce que c'est Daniel Auteuil.
Elle a le droit de pas aimer. Non, mais attends, elle était malade.
Daniel Auteuil peut être un formidable acteur à condition d'être dirigé par Jean-Pierre Vincent. Là, il a sans doute eu trop à faire entre la mise en scène et l'interprétation. Il joue ça. Alors, il a pris le biais de jouer la paillardise, la bonne santé, la vitalité, le rire. Mais c'est quand même oublié que ce cher Argan est taraudé, obsédé par la mort. Donc il doit quand même bien y avoir quelque chose qui se passe dans sa tête. Et là, on ne sent rien dans Daniel Auteuil. On ne sent rien du tout. La première scène, quand on pense à ce que faisait Michel Bouquet il n'y a pas encore pas si longtemps, la première scène où il fait la liste des médicaments et combien ça coûte, mais j'ai eu l'impression que ça durait une heure. C'était terrible. Il ne savait pas comment la prendre. Il ne savait pas comment la mettre en scène. Comment la jouer. J'ai trouvé ça, moi, pathétique. Et j'ai trouvé que cette interprétation était
pathétique
proche
du néant. Pathétique est un peu excessif, quand même, non ?
Proche du néant.
Non, Fabienne.
Je trouve... Alors, certes, on a beaucoup voulu dire que le malade imaginaire, comme Molière, est mort en l'interprétant, ou enfin en sortant de la salle, était une pièce testamentaire qui parlait de mort et qui annonçait la mort de Molière. Donc il a voulu prendre le contre-pied, c'est
mais il a raison.
Non, mais il prend pas le mais contre-pied.
Il a raison, parce que quand Molière a écrit cette
carnaval macabre,
et sa fille, vous êtes gentille avec la fille, parce que sa fille est une piètre servante.
Non.
Enfin. Non. Je ne sauve que les décors de Jean-Paul Chambaz et les costumes.
Oh. Jacques, quand Molière a écrit la pièce, il se doutait pas qu'il allait mourir. Et c'est une pièce.
Ah, ça c'est bien vu.
C'est
ça.
Une pièce pleine de santé. Effectivement, c'est pas, ça n'annonce rien. Oui, il a craché le sang à la quatrième représentation, mais ça ne veut pas dire qu'en l'écrivant, il se sentait malade, il prévoyait pas de mourir spécialement. Et c'est une pièce qui ne sent, contrairement à ce que vous dites, il n'y a pas la mort présente dans cette pièce.
Enfin,
ce qui est drôle dans la pièce,
la maladie, pardon, on est bien un peu taraudé par la mort. Excusez-moi,
au contraire, ce qui est drôle dans le personnage, ce qui est drôle dans le personnage d'Argan, c'est justement que c'est un homme en bonne santé. Qui croit être malade.
Mais pour ça,
il faut un acteur qui respire la santé. C'est précisément ce que fait Auteuil. Et là, il rejoint un peu Jacques Charon autrefois à la Comédie Française. Je crois que j'avais pas vu d'aussi bon malade depuis ce temps-là. Auteuil est 100 fois meilleur que Bouquet, qui, à mon avis, était beaucoup trop vieux pour jouer le rôle. Mais enfin bon.
Charon n'était pas jeune.
Mais, si, je suis désolé, ça n'a rien à voir.
Ça va.
Mais,
voilà. En attendant, c'est un spectacle qui est en bonne santé, effectivement, et c'est ce qu'il faut, et on s'amuse énormément, le public ne boude pas son plaisir, Auteuil non plus, c'est un grand bonheur, je crois que ça, c'est vraiment dommage de décourager des gens d'aller le voir.
Ils peuvent bien sûr, parce que les places sont chères dans le théâtre privé, bien sûr qu'il faut les décourager si je trouve que c'est pas bien. Enfin, les places, elles sont moins 60 euros.
Ce qui est dommage, c'est que vous ne trouviez pas ça bien parce qu'on n'y fait pas les pieds au mur, c'est tout.
Le malade imaginaire,
c'est
de Molière.
Et c'est
au théâtre de Paris monté, joué par Daniel Auteuil, qui, entre parenthèses, est plus intéressant au théâtre que dans la plupart des films dans lesquels il joue depuis quelques années. Depuis quelques années, vous n'allez pas beaucoup au cinéma, Fabienne, parce que franchement, l'autre Molière à l'affiche est le misanthrope monté au théâtre libre. Alors, c'est l'ancien théâtre Comédia. Il faut suivre ça, c'est nécessaire. Par Peter Stein, que tout le monde appelle pour l'instant à la radio Peter Stein, puisque c'est l'ancien patron de la Schaubühne, qui nous a donné l'an passé un Tartuffe, tiens encore, un Tartuffe dans le privé, bien, bien faible. C'était Porte Saint-Martin avec Pierre Arditi et Jacques Weber. Ici, c'est donc Lambert Wilson qui incarne Alceste, cet intégriste de la vérité dont se joue la coquette, et mondaine Célimène, jouée par Pauline Chevillet, dont Latrabilaire est amoureux, Brigitte Catillon est Arsinoé, Jean-Pierre Malot est Oronte, Hervé Briot Philinte, Manon Combes c'est Eliante. On a un peu de mal à dire quoi de neuf Molière, parce que la mise en scène est quand même platounette, mais au moins, c'est ce qui tranche dans ce spectacle, qui se joue jusqu'au 19 mai, c'est l'incroyable violence du jeu de Lambert Wilson. Moi, j'ai vu des Alcestes assez durs, mais là, c'est un Alceste très, très, très violent, Jacques.
Je crois que, pour deux raisons, Lambert Wilson est une très, très grosse erreur de distribution.
Ah.
La première, d'abord, c'est quand même la question de l'âge. Ça n'est pas Alceste qu'on voit, c'est Monsieur Alceste. Il se trouve que c'est Monsieur Alceste père, probablement, à qui on a affaire, parce que... Alceste est quelqu'un qui débute dans le monde. On voit bien que... Oronte et Arsinoé lui proposent de l'aider pour faire ses premiers pas à la cour, etc. Ça peut pas être un homme de l'âge de Wilson. D'autres parlent tout dans le caractère d'Alceste et justifié si c'est un jeune homme et non pas si c'est un homme d'âge mûr. Sinon, si c'est un homme d'âge mûr et qu'il profère
de la naïveté, c'est un idiot. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel il faut arrêter d'être critique?
Peut-être, j'en sais rien. Ça, c'est à vous de voir. Et puis, la deuxième chose, c'était effectivement, Wilson le joue d'une façon très étonnante, et je pense que là, c'est pas de sa faute, c'est la direction de Peter Stein, mais c'est qu'il est terrifiant. C'est-à-dire ça n'est pas Alceste, c'est le maître de Santiago, je sais pas, c'est un inquisiteur, il fait des mines épouvantables, et j'ai regardé dans le programme, sur toutes les photos, c'est la même chose. Il fait peur. Alors, pourquoi, dans ces conditions, la pauvre Célimène, qui n'a que 20 ans...
Il le joue un peu Monterland.
Le maître de Santiago. Il est terrifiant.
C'était un père, le maître de Santiago.
Pardon ?
C'était un père, c'était pas un amoureux.
Oui, ben justement, c'est pour ça que je pense que je préférerais voir un amoureux plutôt que le maître de Santiago sur le plateau. Oui, c'est bien ce que je dis, Fabienne.
Bien, je ne suis pas d'accord.
Je sais bien que vous ne serez pas d'accord. Parce que là, vous croyez voir quelque chose de moderne, mais en l'occurrence...
En l'occurrence,
c'est un spectacle qui, moi, me fait penser à ce qui se faisait du misanthrope il y a des dizaines d'années, quand, justement, des sociétaires de la Comédie-Française d'âge respectable prenaient le rôle parce qu'il leur revenait de droit et ne le laissaient pas à des gens plus jeunes.
Bon, là, Fabienne, pas d'accord ?
Non, pas du tout d'accord, parce que moi, j'ai trouvé que Lambert Wilson donnait une dimension romanesque, romantique, noire, presque un peu gothique à ce personnage d'Alceste. Je l'ai trouvé d'une audace et d'une violence étonnante. Enfin, dans la première partie, quand il chante sa petite ritournelle à la Henri IV pour contrer le poème d'Oronte, il le fait avec une violence. On ressent tout à coup, à travers cette interprétation d'Alceste, ce que pouvait être la cour tétanisée et les courtisans dans le monde de Louis XIV, du pouvoir absolu qui démarre à peu près au moment où commence le misanthrope.
Et pourquoi au moment où il chante
cette
chanson ?
C'est une société où il est, la cour de Louis XIV ne pourra plus dire qu'être d'accord avec Louis XIV, le règne absolu s'instaure. Et justement,
mais quel rapport avec la pièce ?
Et ben parce qu'Alceste, c'est quelqu'un qui refuse les faux-semblants. Politiquement, c'est quelqu'un qui a un courage fou. Et Molière a été d'un courage énorme d'oser montrer, via Alceste, un résistant. Et c'est ce que j'aime d'une certaine manière dans la mise en scène de Peter Stein, élégante, sobre, classique. C'est qu'il laisse entendre le poids politique
même académique
que pouvait représenter quelqu'un comme Alceste dans la cour à ce moment-là. D'ailleurs, le misanthrope n'a pas du tout marché. Ce personnage d'empêcheur de tourner en rond a complètement déplu même au roi. Et je trouve que Lambert Wilson donne cette dimension, en même temps qu'il donne une dimension d'amoureux et perdu envers cette Célimène qui est un peu troublée de cette passion noire. Moi, je trouve que le spectacle est très, très beau.
Gilles.
Je suis atterré par ce que je viens d'entendre et je suis d'accord avec Nerson.
Tant mieux
Hélas, peut-être, mais ce spectacle est, du point de vue de l'interprétation d'Alceste, une catastrophe. C'est-à-dire que ce que fait Lambert Wilson...
Parce que ça dérange vos habitudes.
Lambert Wilson n'a aucune nuance. Il se lance dans le rôle comme ça pendant 2 heures, avec une seule note, avec une espèce de grosse colère de personne qui n'a pas de pensée derrière les choses. Enfin, il y a peut-être 2 ou 3 minutes où il retrouve, parce que c'est dans le texte, quelque chose de pré-romantique, mais c'est 3 minutes sur 2 heures. Le spectacle est d'une uniformité à cause de Lambert Wilson, qui d'ailleurs a une perruque pas possible, joue pas de façon pas possible. Alors, les autres sont peut-être beaucoup mieux, mais ce qui c'est, d'ailleurs beaucoup sont mieux, j'aime beaucoup, moi, Pauline Chevillier qui joue Célimène. Quand même, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que Peter Stein, il avait fait un spectacle qui se passait pas à l'époque, dans l'époque de Tartuffe. Donc il s'est dit, je vais faire l'époque. Et alors, il fait le 17e siècle, mais de façon pesante. Enfin, cette espèce de surcroît, de perruques, de brocart.
C'est les costumes.
On a l'impression d'être
dans un vieux
théâtre. Il y a pas de stylisation, il y a rien. Enfin, c'est vraiment pas ça, quoi, encore une fois.
Armel.
C'est drôle parce que j'étais sur le même soir, j'ai assisté à ce spectacle le même soir que Gilles Costaz. Je crois même que j'étais sur le même rang. Et je n'ai pas du tout vu ça. Moi, j'ai vu plutôt le spectacle qu'a vu Fabienne Pascaud. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est l'interprétation de Peter Stein, la direction de Peter Stein, mais c'est vrai que ce que fait Lambert Wilson peut déranger, par rapport aux images qu'on a d'Alceste habituelles. Il est furieux. C'est un amoureux furieux. C'est un homme furieux. C'est un homme très en colère.
Mais comment expliquez-vous que Célimène soit amoureuse de lui? Et comment expliquez-vous qu'elle accepte
du charme? On peut être en colère et
avoir du charme. Tout le temps, c'est un peu inquiétant quand même. Et qu'elle veuille se...
Les femmes en rêvent.
Mais oui, mais non.
Apparemment.
On se focalise en plus sur l'interprétation d'Alceste, mais il y a aussi tout le reste de la distribution.
Ah oui, les petits marquis, bravo, les petits marquis sont
qui de haute qualité. Il y a un Oronte de Jean-Pierre Malot, comme vous n'en verrez jamais deux fois. Il est absolument exceptionnel.
Il est bien.
Et Brigitte Cathillon est formidable.
Le Filinte d'Hervé Brio est remarquable. Cathillon en Arsinoé. La merveilleuse petite Manon Combes est une Éliante absolument exceptionnelle. Et les scènes entre Filinte et Éliante, je ne les ai jamais vues aussi finement jouées. J'adore, on le sait, Pauline Chevillier, donc je suis contente de la trouver là. Voilà. Alors, il y a les grosses plaisanteries stupides de Peter Stein, les petits marquis. Alors, il est allé chercher un comédien pas très grand pour faire un des petits marquis. Et à la fin, lorsque Alceste part au désert, c'est-à-dire se retire loin du monde, il part vers le fond du théâtre, il ouvre une porte... Et on voit un désert à la Petit Prince. C'est ridicule. Ce sont des grosses plaisanteries idiotes.
Non,
mais pour le reste, le spectacle est tout à fait remarquable.
Jérôme, tu pouvais rappeler quand même que Le Misanthrope, monté par la Revue Léger avec Loïc Corbery, va être repris à la Comédie Française au mois de mai.
Ah.
Là, on verra quand même une véritable mise en scène de la
pièce. Vous n'admettez pas la
différence. Il y a énormément de
subtilités qu'il n'y a pas dans cette pièce. Laissez-vous étonner.
Mais non,
d'abord, vous nous parlez gentiment, Fabienne, parce que ça va mal se faire finir. Non, mais laissez-vous étonner. Le Misanthrope, c'est donc de version Peter Stein, hein, et musclé, hein, je vous le dis. C'est donc au Théâtre Libre. Allez, on va vite parce qu'on n'y reste plus beaucoup de temps. 12 ans après Faisons un rêve de Guitry, Michel Larocque et François Berléand se retrouvent donc sur scène dans Encore un instant, une pièce de Fabrice Roger Lacan qui avait fait Cravate Club, Chien Chien, etc. C'est mis en scène évidemment par Bernard Murat dans un décor évidemment signé Nicolas Cyr. Suzanne, elle est comédienne, c'est Michel Larocque, elle ne s'est toujours pas remise de la mort de son mari qui était son metteur en scène, son Pygmalion, c'est Julien et c'est François Berléand. Pour elle d'ailleurs, il est toujours là, il la conseille, il la dirige quand elle reçoit le dramaturge Max, c'est Lionel Abelansky, qui lui propose une nouvelle pièce, ou quand son jeune locataire Simon Sévigny d'Argot lui voue une adoration fétichiste. Le slogan de cette pièce, c'est « En amour, il est des miracles qu'on ne peut expliquer ». Hermel.
C'est pas une très bonne pièce de Fabrice Roger Lacan, c'est une pièce qui va vers la facilité, puisque c'est toujours facile d'installer un personnage qui est mort et qu'une seule personne voit. Elle hésite entre deux styles. Je veux pas tout déflorer, mais elle est...
Oh bah il y a pas grand-chose à déflorer.
J'ai dit l'essentiel, hein, franchement.
Bon, mais moi, et je ne me renie pas, j'ai passé une excellente soirée.
Excellente.
Parce que, oui, parce que, ne serait-ce que François Berléand. Berléand, il est génial. Berléand avec
pas
presque
pour les
rien.
Gilets jaunes, hein.
Comment ?
Je disais pas pour les gilets jaunes.
Oui, mais ça, bon, c'est une autre histoire. Berléand, avec presque rien, juste un regard, juste un petit geste, il est d'une cocasserie exceptionnelle. Moi, j'aime beaucoup Michel Larocque. C'est une comédienne que j'admire depuis que je l'ai vue apparaître dans « C'est encore mieux l'après-midi ».
Oui, mais il serait pas mieux dans une pièce ?
Oui, mais je suis d'accord, mais... Je l'ai dit que la pièce n'était pas très bonne,
bah oui,
mais on
donc...
passe quand même un bon moment. Ça arrive, ça, le bonheur des acteurs. Et Lionel Abelansky et Vinny Dargo sont aussi très bien. Donc, ne soyons pas trop grincheux, rions un peu, et on rit, et on est ému.
Jacques.
Écoutez, moi, je demande qu'à rire, mais pas là.
Non, vous préférez le malade imaginaire.
Je préfère, oui, je préfère largement le malade imaginaire. La pièce est un peu meilleure. Et surtout, il y a une pièce, alors que là, il n'y en a pas. Il y a cette idée de départ, effectivement, du personnage du mari qui est mort et que seul voit sa femme. Bon, ben, c'est une allégorie du deuil, on comprend bien. Et après ça, il ne se passe plus rien. Plus rien de toute la soirée. C'est-à-dire que ce n'est pas très long, mais c'est quand même très ennuyeux. Et alors évidemment, moi aussi j'aime beaucoup Michel Larocque, moi aussi j'aime beaucoup François Berléand, mais je les aime quand ils ont quelque chose à jouer. Et là, franchement, j'ai trouvé le public très tiède et les applaudissements étaient tout juste polis.
Fabienne ?
Oui, la pièce est faible. C'est encore une fois une histoire d'actrice comme dans Opening Night, mais le travail de l'auteur Roger Lacan sur les affres d'une actrice, c'est rien, quoi. C'est rien. Et la pièce hésite entre la comédie, le rire et puis la tragédie avec cette histoire d'amour qui n'en finit pas de hanter Michel Larocque. Mais moi, je trouve ça très, très mou. Et la mise en scène de Bernard Murat ne fait rien, parce que est-ce qu'il existe vraiment ce personnage de François Berléand ? Est-ce que le fantôme est là ou est-ce qu'elle est folle ? Il aurait pu jouer là-dessus, il ne le fait même pas.
Gilles ?
Oui, c'est effectivement une pièce où Roger Lacan n'est pas à son meilleur niveau. Quoi. Il y a des idées, quoi. Effectivement, l'idée du mari fantôme est une belle idée, mais qu'on en a vu dans la comédie américaine des années 30 tout le temps.
C'est ça, c'est pas une idée nouvelle quand même.
Et on sent qu'il cherche sa pièce, elle change complètement à la fin, d'ailleurs, c'est une espèce de... Ça vient un peu du Hanouille, comme ça, c'est la comédienne qui parle de...
Oh, vous n'êtes pas gentil pour Hanouille, là.
Mais c'est vrai que les deux comédiens, Michel Larocque et Berléand, sont très bien. Abeyanski, je trouve que c'est quand même triste.
Très caricatural.
Allez, encore un instant, je vous passe, sinon on ne dira même pas un mot d'Edouard Einstein. Donc encore un instant, c'est au théâtre Édouard VII. Allez, vite, à la Comédie des Champs-Élysées, Stéphanie Fagado met en scène le cas Édouard Einstein, le roman de l'écrivain médecin Laurent Sexic, centré, vous le savez, sur Édouard, le fils cadet et schizophrène du génie de la physique Albert Einstein, qui était interné dans une clinique de Zurich. C'est Hugo Becker dans le rôle titre, entouré de Michel Jonas, qui joue Einstein, Josiane Stoleru, qui est sa femme, Mileva Einstein, Pierre Benezier, Amélie Manet, et Jean-Baptiste Marcenac. La pièce, comme le roman, se déroule donc autour de cet aveu d'Einstein. Mon fils est le seul problème qui demeure sans solution. Un fils qui finira d'ailleurs ses jours parmi les fous dans le plus total dénuement. J'avais lu le roman. Est-ce que ça fait pour autant une bonne pièce ? Vous me répondez, mais vraiment en quelques mots, Jacques ?
Il n'y a pas de pièce parce que les deux personnages, en réalité, n'ont aucune relation pendant tout le temps du spectacle. Et donc, c'est deux histoires parallèles, pas très bien menées, pas très intéressantes, pas très bien jouées, pas très bien mises en scène. Non, c'est franchement un non-spectacle.
Gilles, pas vu, Armel.
C'est mis en scène
par Stéphanie Chabot.
C'est beaucoup dire.
D'une façon très très statique, parce que c'est Monsieur Michel Bouquet qui a souhaité que cette pièce existe et qui rêvait de jouer le rôle qui a finalement échu à Michel Jonas parce que il a eu peur au dernier moment. Donc il a refusé l'obstacle, ce que l'on comprend. Mais donc Stéphanie Fagado, elle aurait bien fait de revoir sa mise en scène, parce que Michel Jonas, qui est un bon acteur, là il est complètement ligoté derrière un bureau, il bouge quasiment pas, et donc c'est vrai que le décor est scindé en deux. Le petit Hugo Becker fait ce qu'il peut, mais il est trop dans l'expression. Et là, il y a une chose qui est belle dans cette histoire, c'est cette photo absolument extraordinaire.
Non, mais là on est à la radio, hein, donc on peut pas.
Oui, mais voilà.
On peut pas la voir.
On est à la radio, mais on peut quand même parler des photos. C'est une photo qui a été prise dans l'hôpital où était enfermé Edouard.
C'est terrible.
C'est après un concert qu'ont donné son père et lui. Son père, il est là avec un regard d'une tristesse, un homme perdu, terrorisé par l'avenir, avec son violon à la main. Et le jeune Edouard, qui ressemble au jeune Marlon Brando, qui était d'une beauté extraordinaire, consulte une partition. C'est une image de paix et de désespoir. C'est là qu'est la vérité de cette affaire, et pas dans l'imagination qu'on peut en avoir par ailleurs, malheureusement.
Fabienne ?
J'ignorais toute cette histoire, donc je dois dire que j'ai pris un certain plaisir, à savoir, enfin un plaisir triste, à savoir qu'Einstein avait abandonné son fils en 1933, il ne l'avait plus jamais
mais il l'a abandonné parce qu'il était obligé de s'en aller.
Bien sûr.
Il ne pouvait pas le faire sortir
sûr,
de l'hôpital.
Mais donc j'ai été assez émue par la situation. La pièce, elle est un peu inexistante, mais Michel Jonas, je trouve, s'en sort très très bien. Et moi,
plus que vous,
Armel, j'ai bien aimé Hugo Becker.
Oui,
j'ai découvert.
Mais il est très bien. Mais
voilà. J'ai pris plus de plaisir à ça qu'à Encore un instant de Fabrice Roger Lacan.
Le cas Édouard Einstein, c'est à la Comédie des Champs-Élysées, dans une mise en scène de Stéphanie Fagado. Allez, un conseil pour finir cette émission, on va commencer avec Armel.
Alors, moi, je vais vous parler d'un spectacle qui ne se donne plus beaucoup.
Ah.
Mais ça fait rien. C'est, il se donne.
C'est dommage, c'est tout.
Mais non! parce qu'il va être repris, je suis sûre, si j'en parle, le 3 avril à Narbonne et les 17 et 18 avril à Nîmes. C'est une pièce extraordinaire, très difficile à monter, qui s'appelle La Duchesse d'Amalfi, John Webster. Elle a souvent été montée, mais là, je l'ai vue, montée par une jeune compagnie, conduite par un metteur en scène extraordinaire, qui est aussi un excellent comédien, Guillaume Severac-Schmitz. Il a toute sa petite bande avec lui, ils sont tous formidables. Je voudrais en particulier saluer Éléonore Jonquès, qui fait La Duchesse d'Amalfi. Voilà, ça vaut la peine, ça se joue plus beaucoup, mais ça reviendra un jour, et j'ai plein d'autres choses, si vous voulez. Mais
le je laisse ma place
à mes amis.
Oui, moi je voudrais recommander ce que notre ami Vincent Joffre recommandait au dernier Masque et la Plume. Cette pièce s'appelle Girls and Friends de Denise Kelly, jouée au Petit Saint-Martin. C'est une histoire d'un couple qui finit mal, mais surtout c'est joué par une comédienne magique, extraordinaire, bouleversante, admirable, qui s'appelle Constance Dolé. Et voir Constance Dolé dans ce rôle...
Très mal mise en scène.
Saint-Martin. Non, pas du tout mal mise en scène, Armel. Très bien mise en scène, mais de façon assez surprenante, c'est vrai. Je crois que c'est très important, comme spectacle, dans la saison.
Mon conseil, c'est une pièce à lire. Ça s'appelle La Séparation. C'est aux éditions du Chemin de Fer. Et c'est la seule pièce jamais écrite par Claude Simon. Elle n'est même pas dans les deux volumes, j'ai regardé, de la Pléiade du prix Nobel de littérature. Elle a été montée en mars 63 par Nicole Kessel au Théâtre de Lutèce. Il y avait encore un Théâtre de Lutèce avec Alice Cossea, et qui est un huis clos terrible, très oppressant, dans une maison bourgeoise à la campagne, avec une vieille tante qui agonise à l'étage, et en dessous deux couples qui attendent sa mort et qui convoitent ses bijoux. C'est une sorte de tragédie grecque, mais dans le sud-ouest de la France. Et c'est surtout, encore une fois, la seule pièce écrite par Claude Simon, que même à l'époque, Jérôme Lindon, chez Minuit, n'avait pas voulu publier, considérant qu'elle était trop classique, pas assez nouveau roman. Voilà, en tout cas, je vous en conseille la lecture, c'est aux éditions du Chemin de Fer. Le conseil de Fabienne.
Alors moi, c'est une reprise exceptionnelle d'un spectacle de Loupa, que nous avions beaucoup aimé, Christian Loupa, qui reprend au Théâtre des Gémeaux à Sceaux à partir du 22 mars pour 10 jours. Et c'est la Place des Héros de Thomas Bernhardt, qui est la dernière pièce de Thomas Bernhardt, qui raconte le suicide d'un professeur juif qui n'a pas pu survivre à tout ce qu'il pouvait vivre en Autriche. On sait combien Thomas Bernhardt a toujours dénoncé l'antisémitisme qui sévissait en Autriche. C'est une pièce terrible sur la fin des intellectuels, la fin de la pensée, la fin du politique, et c'est mis en scène de manière prodigieuse par Christian Loupa.
Jacques.
Il reste très peu de jours pour voir La Double Inconstance.
Ça aussi, c'est ballot.
Oui, c'est dommage, mais ça vaut le coup. Et j'espère que ce sera repris. Mise en scène par Philippe Calvario, La Double Inconstance.
Après, vous en avez parlé, ça va être repris, forcément.
Au Théâtre 14, c'est bien possible. On ne sait pas. Et il y a notamment deux comédiens merveilleux, Maude Forget dans le rôle de Sylvia et Guillaume Santou dans le rôle d'Arlequin.
Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Fabienne Pascaud, Armel Héliot, Gilles Costaz et Jacques Nerson pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Et ce soir au théâtre de l'Alliance française à la technique, et je les remercie, il y avait Marie Le Peintre, Lydwin Caron et Stéphane Touvenin. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, il aura lieu le jeudi 21 mars. Je vous attends nombreux au théâtre de l'Alliance française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de films. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment.